vendrais un instant au temps du relatif. Je vendrais quelques volts aux galaxies éteintes. Je vendrais nulle part à des prohibitifs. Je vendrais la raison à des prix hors d'atteinte. La raison à des prix hors d'atteinte. Il ne reste que moi qui ne suis pas avant. Alors tu es passé et je me suis donné à toi pour rien, à toi pour rien, pour rien.
C'est la fin du Ferré Club. À la semaine prochaine.
Papier de chocolat, la lune dans le ciel étire sa géométrie falbala, verte d'absinthe et de saphir. Elle était ici, la voilà, au fond de mon verre qui se mire dans les guirlandes de gala. De livrer ce qui me déchire. Petit papier de chocolat, l'alcool dans la nuit me chavire. Tout en haut du Fujiyama, dans le ciel bleu de mes délires, le jour se lève et moi, à l'écluse de mes désirs, je lève mon verre et je vois, couché sous le pont des soupirs, derrière la porte des lilas. Au vent mauvais s'évanouir, petit papier de chocolat, c'est ma jeunesse qui se tire.
Eh bien, il est 17h. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023. Vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire. Tout est parfait. C'est un plaisir de vous retrouver. Une émission proposée par les passionnés du livre et de la lecture. Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et notre invité aujourd'hui, Jean-Guy Bouin, pour nous parler de François Gèze, notamment fondateur des éditions La Découverte et qui est décédé le 28 août dernier. Nous parlerons aussi du livre posthume de François Gèze, La double nature du livre, publié aux Belles Lettres en octobre dernier. De 17h à 18h30, les 2e et 4e mercredis de chaque mois sur Radio Libertaire, et vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Libertaire. Avant de démarrer nos lectures, Frédéric, des annonces peut-être, hein ?
Oui.
Lorsqu'il marchait sur les eaux, il regarda longtemps au loin du haut de sa solitude.
Merci Frédéric. Alors nous vous rappelons toujours le 4 décembre à 18h rue Lobo dans l'auditorium de l'hôtel de ville la conférence organisée par les amis de la Commune de Paris sur la sortie du livre de Jean-Louis Robert consacré à une nouvelle histoire de la Commune de Paris. Bientôt, nous allons inviter Marie-Claire Calmu pour nous présenter son ouvrage Nouvelles du cataclysme, et puis Sandrine Malika Charlemagne pour La Traqueuse, mais nous en reparlerons après lecture. Alors, nous allons commencer la partie découverte et pour engager le débat. Alors, pour engager le débat, il y a un peintre qui est assez étonnant, c'est Nicolas de Staël. Agnès, est-ce que tu peux nous parler de cette émission et d'un livre qui vient de sortir et qui porte sur un de ses tableaux ?
Tout à fait. L'exposition Nicolas de Staël se déroule actuellement au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 21 janvier 2024. Promenons-nous donc dans cette exposition et conservons le souvenir des œuvres grâce à un magnifique catalogue et un livre qui flirte avec la biographie pour reprendre la formule de l'éditrice. Parlons du catalogue édité par Paris Musée en nous en appuyant sur l'exposition, avec des textes de Charlotte Barat, Laurence Bertrand d'Orléac, Marie Dubuchet, Pierre Watt et d'autres. Ce catalogue met en avant plus de 250 œuvres, dessins et gravures réunis au Musée d'Art Moderne de Paris pour cette exposition remarquable, organisée selon les périodes de sa vie, du début jusqu'à sa mort, dont 70 œuvres qui n'ont jamais été montrées en France. Il n'y avait pas eu de rétrospective de son œuvre depuis 20 ans, la dernière ayant eu lieu au Centre Georges Pompidou en 2003. L'exposition, comme le catalogue, se découpe en trois époques caractéristiques de son œuvre. Ses premières toiles, de 1940 à 1949. Nicolas de Staël, fils du baron Vladimir Ivanovitch de Staël-Holstein, n'a que 3 ans au moment de la Révolution russe, événement qui, malgré les meilleures intentions de ses parents, le marqueront à vie. Un sentiment d'instabilité et un mal-être partout, la violence et la mort comme la peur qu'il voit et ressent partout. Il fut élevé par une famille adoptive en Belgique, la famille Frisero, qui lui offrit une brillante éducation. Il optera néanmoins pour des études artistiques et de lettres. Il voyage beaucoup pour visiter l'étoile des maîtres, mais aussi pour se repaître des paysages rencontrés. Il épousera une artiste, Jeannine Guillou, qui le présentera à Georges Braque, Pierre Manili, et des personnalités comme Jeannine Bucher, qui encourageront son talent en lui permettant d'exposer. Jeannine s'effacera pour encourager le talent de son époux et mourra fort jeune. De cette époque, les toiles de Nicolas de Staël sont de tonalité très sombre et chargée pour ses peintures et ses compositions essentiellement abstraites et extrêmement graphiques et fort agitées. Beaucoup de noir, beaucoup de petites surfaces imbriquées. Puis, de 1949 à 1953, la richesse de cette époque de sa vie est spectaculaire. C'est aussi l'époque de son deuxième mariage avec Françoise Chapouton, le début de la reconnaissance de son art, en particulier aux États-Unis, de grandes amitiés avec Pierre Lecuir, puis René Char, et un travail toujours aussi abondant et où la pâte de la toile s'épaissit et où les tons deviennent plus vibrants, lumineux, voire solaires. C'est la période centrale de sa carrière. Les formes sont plus larges, carrées ou rectangulaires, l'artiste retravaillant ses toiles sans cesse. Ses toiles peintes à la suite d'un match de football au Parc des Princes ou bien les tableaux d'orchestre de jazz seront de grands tournants dans sa démarche artistique aussi et un succès évident. De nombreux voyages encore, beaucoup d'expositions aux États-Unis et au Royaume-Uni, quantité de lithographies accompagnant des textes littéraires aussi, une implication qui dépasse son univers de peintre. Enfin, de 1953 à 1955, c'est la rencontre avec Jeanne Polge lors d'un voyage en Sicile et son installation dans le Midi à Ménerbe, puis en Tibes, pour se rapprocher de sa maîtresse et son éloignement avec Françoise et ses enfants. Enfin, un dernier voyage avec son ami Pierre Lecuir, son admiration devant des tableaux de Velázquez, sa toile Le Concert et puis le 16 mars 1955, son suicide. Un changement important s'opère pendant cette période. C'est une peinture plus fluide, avec de vastes plages de couleurs pures et ardentes. Un retour au figuratif avec des toiles comme le Saladier d'une grande fraîcheur. Les paysages d'Agrigente, d'Aix-en-Provence, de grands aplats chauds, de couleurs magiques du Sud, ces croquis délicats, légers. Bref, du catalogue, j'en retiens l'entretien avec sa fille Anne, qui nous émeut sur les attitudes de son père et sur son caractère. Elle voyait ainsi une tonne de passion et 100 grammes de patience. Quand elle visitait le Louvre avec lui, elle raconte, je cite, « On était très sages au Louvre. Il y allait pour lui quand il regardait un tableau, il le regardait avec une telle intensité, on aurait dit qu'il cherchait quelque chose dedans. » Mais aussi le journal du poète Pierre Lecuir. Pierre Lecuir cherchait à s'exprimer sur ce peintre qui, selon lui, est un grand peintre depuis jeune. Il espérait, entre Nicolas de Staël et lui, une correspondance à la hauteur de celle entre Delacroix et Baudelaire. Je cite, « Je me sens si vide quand je lui parle et si gonflé de sucre une fois que je l'ai quitté. » Il trouvait dans son œuvre l'écho visuel de l'œuvre qu'il cherchait lui-même à écrire. Correspondances qui seront publiées en 1953, ainsi que d'autres sur d'autres artistes. Pierre Lecuir mettant bien entendu en avant la culture artistique de Nicolas de Staël dans tous les domaines artistiques, peinture, littéraire et musical. Je cite, Nicolas de Staël semble perpétuellement sortir d'un grand cadre et la contemplation d'un de ses tableaux donne l'impression qu'il s'y est enfoncé, comme quelqu'un que l'on voit s'éloigner de dos dans une allée, dans le jeu des branches, de la lumière qui la traverse, des milliards de sensations et de sentiments. Ils écriront beaucoup de recueils ensemble, illustrés en lithographie par Nicolas de Staël. Pierre Lecuir l'accompagnera partout et fait dans ce journal un portrait de ses moments de rencontre avec une grande émotion, malgré quelquefois leur relation orageuse, mais si forte entre deux. Nicolas de Staël était un passionné et n'hésitait pas à parler de degrés d'amour au sujet de ses tableaux, les siens comme ceux qu'il chérissait. Comme écrit Madame Charlotte Barra, en effet, il a raison de parler d'amour. Je cite, « Sa peinture si sensible et si personnelle n'a cessé de provoquer les plus vives émotions chez ceux qui la regardent et en éprouvent la force comme les fragilités. » L'annonce de son décès le 16 mars 1955, de son suicide, fit l'effet d'une déflagration et d'émoi et étendit sa notoriété jusqu'au grand public. Et puis ce dernier tableau de l'expo, le concert, qu'en est-il ? Aurélia Cassignol-Ojeda a publié aux éditions Atelier Henri Douguier, dans la collection Le roman d'un chef-d'œuvre, le livre « Ce rouge incandescent » selon Nicolas de Staël, dont je souhaiterais vous dire quelques mots. Faire parler cette œuvre, beaucoup d'écrivains de journalistes, dont la fille de Nicolas de Staël, Anne, chercheront à accéder au mystère de cette toile d'une dimension très importante, 6 mètres sur 3,50 mètres, et d'un rouge sang, un ciel rouge de ce vermillon si dense qu'il émet tant dans les fresques de Pompéi. Parlons de ce tableau, c'est un gigantesque rectangle, donc à dominante rouge vermillon à gauche, un piano à queue noir, ses touches mises en avant, un ensemble de portées musicales de différentes couleurs, mais sans notes de musique apparentes. Et à droite, une gigantesque contrebasse droite, sans cordes ni musicien. Pourquoi cette couleur rouge en soi ? Pourquoi pas le concept du cassé bleu ou l'infini, le droit de peindre les ciels rouges ? Ce cassé bleu inventé avec son ami le poète résistant René Char, le droit de réinventer le monde. Je cite « Le cassé bleu, c'est absolument merveilleux. Au bout d'un moment, la mer est rouge, le ciel jaune et les sables violets. Et puis cela revient à la carte postale de Bazar. » Mais ce bazar-là et cette carte, je veux bien m'en imprégner jusqu'au jour de ma mort. Sans blague, c'est unique, René. Il y a tout ça. Après, on est très différents. Et puis l'aventure à l'origine de ce tableau. Nicolas de Staël fut invité au théâtre Marigny, écouter Schoenberg et Webern, dans cette salle déjà écarlate, et dont il fut ému par la personnalité de ce Schoenberg. Des similitudes le frapperont comme ses sentiments exacerbés, identiques aux siens, ses passions, ses tumultes. Il projettera sur cette toile toutes ses émotions multiples. Il se qualifiait d'homme de rupture, souligna Aurélia. Il ne se retourne jamais, il a écrit, il avance d'accident en accident. Il semble qu'au-delà de ses troubles amoureux, il était aussi troublé par le virement de situation, avec son succès, le sentiment de devenir une marchandise, de devoir produire sans fin pour une élite américaine dont il ne cachait pas son dédain. Enfin, Édouard Dorr, essayiste, écrit au sujet de ce tableau Le Concert, je cite, Majesté due aux dimensions hors normes de ce tableau et à l'éclat du rouge, couleur d'apparat. Angoisse de l'attente, car nous savons bien que cet orchestre ne pourra jouer qu'avec la présence de musiciens et que ceux-ci ne viendront sans doute pas, à moins qu'ils ne soient déjà partis. Intensité enfin créée à la fois par l'attente et l'immense brûlante surface de vermillon. C'est ce gigantesque aplat de vermillon qui le fait vibrer, qui le fait exister. C'est dans les plis invisibles de ce rideau de scène que semble se cacher le secret de cette œuvre. J'ai beaucoup apprécié ce petit roman écrit par Aurélia Cassignol-Ojeda à la suite de la lecture du catalogue du musée. Un moment d'une émotion particulière, intimiste et d'une grande sensibilité. Je vous rappelle le titre du livre, « Ce rouge incandescent selon Nicolas de Staël » d'Aurélia Cassignol-Ojeda aux éditions Atelier Henri Douguier, collection Le roman d'un chef-d'œuvre. Et aussi, donc, l'exposition Nicolas de Staël au Musée d'Art moderne, 11 avenue du Président Wilson, à Paris, du 15 septembre 2023 au 21 janvier 2024.
Merci Agnès. Donc, une exposition à découvrir, un catalogue à découvrir, et puis ce petit livre qui se lit avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'aisance. Je sais que tu l'as lu pratiquement en deux jours.
Donc oui, tout à fait. Un régal.
Un vrai régal.
Voilà.
On laisse à Marie le temps de s'installer. Je voudrais vous dire un petit mot d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est un petit peu polémique au départ. C'est la question de l'attestation. Une expérience d'obéissance de masse au printemps 2020. Moi, je me suis posé la question... Depuis le début de cette épidémie de la Covid 2019, comment a-t-on pu supporter une telle atteinte aux libertés publiques et notamment celle d'aller et venir ? La peur, le repli sur soi, la répression, le désintérêt pour la vie sociale ? En toute hypothèse, il apparaît qu'il y avait un avant et un après confinement avec de nombreuses conséquences sociétales. Alors, deux chercheurs sociologues, Théo Boulakia et Nicolas Mario, publient aux éditions Anamosa un livre sur le document le plus emblématique de cette période, l'attestation, avec en sous-titre « Une expérience d'obéissance de masse, printemps 2020 ». Pendant 55 jours, les forces de l'ordre font le vide sur l'ensemble du territoire, y compris dans les espaces naturels survolés par des drones et des hélicoptères, certains équipés de caméras infrarouges et de haut-parleurs. Comme disait le président Macron, on est en guerre. Mais contre qui ? Les habitants ? Alors les délations, une grande spécialité française, vont sévir. Les auxiliaires divers et variés permettent de multiplier les contrôles, soit plus de 21 millions de contrôles et d'infliger plus de 1 million d'amendes avec le célèbre 135 euros à tout va. Chacun est surveillé avec des moyens largement déployés et potentiellement sanctionner, ce qui permet d'analyser sur tout un peuple l'obéissance à l'État, de la claustration totale à quelques refus des règles et de s'interroger sur le maintien de ces contraintes, leur transposition à des situations sociétales. Je cite les auteurs, « Cet ouvrage suit les lignes de conduite qu'empruntèrent les confinés, soumis à une surveillance massive dont on trouvait alors en Europe et dans le monde » bien peu d'équivalent. Je rappelle, alors tout d'abord, il y a une chronique qui est beaucoup plus développée sur le site internet du Monde Libertaire dans la rubrique des idées et des luttes, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à raconter sur ce livre qui est vraiment tout à fait passionnant. Je rappelle les auteurs Théo Boulakia et Nicolas Mario, l'attestation, une expérience d'obéissance de masse, printemps 2020, édition Anamosa, 2023. Frédéric, est-ce qu'on peut passer un extrait d'une chanson de Léo Ferré ?
Bipède, volupteur de lyre, époux châtré de polymnie, férolé de lune à confire, grand duc bouillon des librairies, maroufle, appendre à l'hexamètre, voyou décliné chez les Grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète, vos papiers, poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman, et j'ai bouffé litré. Et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un axe. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne et j'ai joué au casino. Les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condits modernes. Syndiqué, et de la solitude. Museau qui dévore cuic-cuic, sédentaire des longitudes. Phosphaté des dieux, cher à flic, colis en souffrance à la veine. Remords de la légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine. Don Quichotte du crève-cœur, poète, au papier. Poète, papier. Le dictionnaire et le porto à découvert, je débourre des mots.
Alors, Marie, donc nous allons parler d'une forme d'exploitation, le prix du berceau, je crois, un livre oui. qui est sorti au Seuil. Mais avant ça, tu voulais nous faire une annonce d'un livre dont tu avais parlé il y a près d'un an et qui sort en film.
Tout à fait. Alors, bon, je ne sais pas encore si c'est vraiment le livre qui a inspiré le film, parce que le scénario est un petit peu différent. Mais effectivement, le film Bâtiment 5 du réalisateur Lajli va sortir en salle le 6 décembre prochain au cinéma. Donc, c'est un film assez attendu, puisque Lajli s'était déjà... illustré en 2019 à la sortie de son film, de son premier long métrage Les Misérables, avec Alexis Mananti notamment. Et donc ça avait fait un carton, bien évidemment. Et donc là, en fait, on reparle des cités, hein, des fameuses cités de Clichy-Montfermeil, dont justement nous avions eu l'occasion de parler le 28 décembre dernier avec notre invité Aristide Barrault, qui avait publié donc, le livre hein, Bâtiment 5 aux éditions du Seuil, toujours. Donc ce n'est pas, voilà, c'est pas complètement une adaptation parce que, de ce que j'ai compris en regardant la bande-annonce, le scénario du film, donc en fait c'est vraiment ce qui se passe au moment où les habitants de la cité, Clichy-Montfermeil, savent en fait que tout va être détruit, quoi. Mm-hmm. Voilà, tout est voué à la destruction. Donc il va y avoir tout un scénario assez sympa, je pense, avec des acteurs jeunes, moins jeunes. Certains sont assez connus. Bah, il y a encore Alexis Mananti, d'ailleurs, qui joue le rôle du maire, qui va être en charge du projet de la démolition. Mmh. Donc ça, voilà, à voir, vraiment, à voir.
D'accord. Alors, le prix du berceau, là, l'exploitation.
Oui,
là.
Oui, oui. Alors, justement, donc, dans la lignée du sujet du livre commenté lors de notre précédente émission, pour en finir avec le crétin digital, où nous évoquions les effets néfastes des écrans tactiles et d'Internet sur les cerveaux des enfants, nous allons cette fois-ci nous pencher sur les dangers qui planent de plus en plus sur la tête des bébés et bambins gardés quotidiennement dans les crèches privées, qui sont de plus en plus nombreuses, mais qui paradoxalement manque toujours un peu plus de moyens humains et financiers pour permettre de ce fait un accueil sécurisé, optimal et serein des enfants en bas âge de moins de 3 ans. Cette enquête journalistique menée par les journalistes d'investigation Daphné Gastaldi et Mathieu Péris, membres par ailleurs du collectif We Report, trouve son commencement à la suite d'un drame survenu le 22 juin 2022 au sein d'une crèche lyonnaise rattachée au groupe People and Baby. Ce jour-là, un bébé âgé de seulement 11 mois trouve la mort dans des circonstances assez troublantes. Une salariée de cette crèche lui a fait ingérer un produit hautement toxique, de la soude toxique, caustique, pardon, pour déboucher les toilettes. Cette soi-disant puricultrice, dont la responsabilité a pleinement été mise en cause puisqu'elle a été mise en examen pour homicide involontaire, expliqua son geste meurtrier par un pétage de plomb lié à un gros surménage et une forte pression psychologique. Ce discours doit certainement paraître bien inaudible par les parents de la jeune et innocente victime, mais il est en réalité révélateur d'une sorte de bombe à retardement qui a sans conteste déjà commencé à exploser au sein d'un milieu devenu indispensable au quotidien pour les nombreux jeunes parents qui, en France, n'ont d'autre solution que de faire garder la prunelle de leurs yeux au sein de ces institutions a priori fiables, comme le seraient aussi, bien sûr, soi-disant les écoles primaires et secondaires, les maisons de retraite, les EHPAD, mais qui donnent en vérité le triste et inquiétant constat de la décadence du modèle sociétal, politique et économique actuel en France. Comme les parents actuels dans ce pays, comment peuvent-ils concevoir en fait une seule seconde de confier leur progéniture à un système qui atteint ses limites depuis un certain temps, Pour cause, une gestion calamiteuse des établissements qui, malgré leur caractère privé, manquent cruellement de financement et d'effectifs, comme c'est très bien expliqué dans le livre. Seulement, voilà, il ne s'agit une fois de plus pas de faire culpabiliser les parents, hein, qui n'ont d'autre choix que d'aller travailler. Mais les auteurs de ce livre, en fait, ont entendu des dizaines de témoignages tout aussi accablants les uns que les autres, qui démontrent une fois de trop toutes les dérives qui découlent de la privatisation à grande échelle des services publics français. Faites des gosses et bonne chance, hein, mais c'est de la chance, hein, qu'il faut espérer trouver en laissant les enfants entre les mains, ou plutôt à la merci de ces établissements négligents, irresponsables, mais surtout maltraitants. Et ça, ce sont bien les paroles rapportées par les salariés découragés et écœurés de ces crèches. Ainsi, c'est avec effarement que nous pouvons lire, à travers les pages de cette enquête, qu'une grande majorité de bébés et bambins, lorsqu'ils sont récupérés par leur famille en fin de journée, sont affamés, car les portions de nourriture distribuées pendant les gardes sont manifestement rationnées, ce qui pose un sérieux problème, car nous pouvons constater qu'un jeune enfant qui a faim est souvent deux fois plus agité qu'un enfant rassasié, entre autres. Et puis, les gros soucis liés à la sécurité sont clairement démontrés, hein, dans cet ouvrage, avec par exemple des établissements dégradés dont les installations ne sont pas conformes aux normes en vigueur, ou alors des petits laissés sans surveillance pendant leur temps de sieste. L'attitude des gérants de ces établissements consiste la plupart du temps à se dédouaner, se décharger de toute responsabilité en pointant du doigt l'inertie de la hiérarchie. De ce point de vue-là, la comparaison peut aisément se faire avec les dysfonctionnements rapportés à l'éducation nationale. Qu'il s'agisse d'établissements publics ou privés, le constat est le même. Le personnel est dépassé par les événements et ne peut faire face à un afflux de contestations des parents d'élèves qui pourtant payent souvent le prix fort pour avoir finalement juste l'illusion que leurs petits chéris seront mieux suivis et accompagnés dans le privé plutôt que dans le public. De la même manière que le métier d'enseignant se trouve confronté depuis un certain temps à une crise des vocations, il en est de même pour les auxiliaires de puériculture qui sont de moins en moins nombreux et nombreuses à se former et donc à avoir une formation qualifiée pour s'occuper d'enfants en bas âge, ce qui est très alarmant pour ces nouvelles générations qui viennent au monde. La privatisation de nos services publics relève davantage d'une escroquerie organisée à grande échelle, et ce depuis de plusieurs années, et le phénomène ne semble pas près de s'arrêter puisque les pouvoirs publics et les instances nationales font la politique de l'autruche. Une fois de plus, nous déduisons à travers les pages de ce livre que les problèmes sociétaux soulevés par de nombreux lanceurs d'alerte sont quasi systématiquement minimisés, voire ignorés, jusqu'au jour où des victimes collatérales viennent rappeler la dure réalité du système politique et idéologique qui se fiche pas mal de ses administrés, car l'argent règne en maître dans cette société où tout s'achète, y compris les principes. Pour en finir, je vais citer le dernier paragraphe de ce livre, page 201, qui résume parfaitement cet engrenage malsain qui se cache derrière l'illusion d'agir pour l'intérêt commun que de nombreux salariés de ces crèches privées ont eu avant de déchanter. Nous repensons alors à Cassandra, qui voyait des dollars au-dessus de la tête des enfants de sa crèche, à Clémentine, qui regrettait d'avoir fermé les yeux sur les pratique de son ancien employeur, à Anthony, vidé par son passage dans une usine à bébés, et à tous ces autres professionnels qui n'ont pas trouvé la force d'aller au bout de leur témoignage par peur des conséquences ou par sentiment d'impuissance. Beaucoup ont déjà claqué la porte de ce système devenu fou. Nous repensons surtout à tous ces enfants pris dans des cadences infernales, victimes de logiques qui les dépassent, réduits à l'état de produits financiers dès les premiers mois de leur existence. Les adultes de demain méritent mieux.
Voilà. Alors, c'est un livre dont le titre...
Alors, Le prix du berceau, ce que la privatisation des crèches fait aux enfants, par Daphné Gastaldi et Mathieu Péris, aux éditions du Seuil, est paru en septembre 2023.
2023, très bien. Et c'est vrai que quand on regarde notre commune, par exemple, on voit bien toutes ces petites crèches
privées, sont très nombreuses,
ce qui permet au maire, d'ailleurs, de faire croire qu'il fait un effort considérable pour offrir des places de crèches. Mais enfin, bon, il fait surtout appel au privé, quoi.
Tout à fait.
Bon, c'est comme ça. Nous arrivons à la deuxième partie de notre émission, et nous avons le plaisir de recevoir par téléphone Jean-Guy Bouin. Jean-Guy Bouin, est-ce que vous êtes bien en ligne ?
Oui, tout à fait, bonsoir.
Bonsoir, c'est très gentil d'avoir répondu à notre invitation. Je voulais rappeler, mais je l'ai déjà dit un petit peu en introduction de l'émission, que François Gèze est décédé brutalement le 28 août dernier à l'âge de 75 ans, et nous souhaitions rendre hommage à cet acteur de la chaîne du livre, comme il le rappelait souvent, et à ce militant. Et hasard des publications, les éditions Les Belles Lettres publient son ouvrage posthume, La double nature du livre. Vous avez été un proche de François Gèze, vous l'avez accompagné à la découverte, vous avez été directeur financier et commercial, et puis vous-même, vous êtes un acteur de la chaîne du livre et du monde de l'édition. Vous êtes resté très proche, évidemment. Est-ce qu'on pourrait parler de l'homme, de ses engagements, de son action? Il est né en 1948. On peut rapidement esquisser un portrait de la famille.
Son père était militaire, donc il est né à Casablanca parce que son père devait être en poste à l'époque. Je pense, mais il est parti à trois semaines ou trois mois. Et ensuite, je pense qu'il est rentré en France. Il n'a pas tellement vécu, si vous voulez, à l'extérieur. Le père a dû assurer d'autres missions, je pense, dans d'autres territoires, mais sans que la famille me suive forcément. Mm-hmm. Donc voilà. Donc il était surtout élevé en France. Il était jumeau, et les jumeaux étaient l'aîné d'une famille de 6 enfants.
D'accord. Et est-ce que très tôt il a été, semble-t-il, vacciné contre l'armée? Pourquoi? Est-ce que c'est l'expérience du père? Non.
Je ne sais pas si c'est l'expérience du père. Ce que je sais, c'est que il a fait son année de terminale et peut-être même son année de première au maths sup, je ne sais plus, au lycée, au prytanée militaire de la Flèche.
Ah oui.
Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que cette institution, qui est une institution où il y a un certain nombre qui en sortent n'étant pas très amis avec l'armée, avec sa discipline qu'elle utilise. C'était notamment le cas aussi de son ami, Bruno Parmentier, qui était mon prédécesseur et successeur, d'ailleurs à la découverte, et Bruno, qui lui a fait sa maths sup à la prétendue militaire de la Flèche avant de rejoindre François en maths P au lycée Fermat à Toulouse, et qui lui aussi, faut pas trop lui parler de l'armée. Ce qui n'empêche qu'à l'époque, ça correspond aussi à une époque, soit on était déserteur, ce qui était un peu compliqué, soit on se faisait réformer, soit on essayait de faire ce qu'on appelle la coopération. C'est-à-dire d'être dans un service d'une ambassade de France, d'un pays déterminé. Qui, pour François, il avait demandé le Chili. Il devait y partir le 14 septembre 1973, et évidemment, du fait du coup d'État Pinochet, il n'y a pas été. Il a été en ambassade de France en Argentine, ce qui explique aussi ses engagements après vis-à-vis de l'Argentine. Et quant à Bruno, lui, a été au Mexique.
Alors, François Gèze, comme beaucoup de jeunes, 1968 va provoquer un basculement dans sa vie. Je crois que c'est là où il rejoint le PSU. Il milite dans un groupe, le CD Team. De quoi alors, s'agit-il?
Le PSU et le PSU. Il y a par ailleurs le CD Team, qui est le centre d'études sur le tiers-monde, un centre d'études anti-impérialiste, qui est logé à l'intérieur du Centre international de culture populaire, qui est dans le 12e ou le 20e arrondissement, je ne sais plus très bien, et qui est toute une série d'associations qui, à l'époque, d'ailleurs, quand on disait tiers-monde, aujourd'hui on dit sud-global, mais si vous voulez, qui sont des associations de soutien à des pays, à des luttes dans des pays, ici ou là, il y a bien une centaine d'associations au sein du CICP, dont le CD Team, qui est probablement la plus importante.
Et quel rôle avait-il dans ce CD Team?
Il a été président du CD Team ou de la CICP, je ne sais plus. Il a suivi notamment parce qu'il avait beaucoup suivi à la suite du Chili, si vous voulez. Il a été l'un des fondateurs animateurs des comités Chili, et ensuite l'un des fondateurs animateurs du COBA, comité pour le boycott de la Coupe du Monde en Argentine en 1978. Mmh. Et voilà, donc très branché autour de l'Amérique latine.
Oui, alors il est très, effectivement, très Amérique latine. Bon, mais avant, il a aussi un parcours intellectuel, parce que c'est un militant, il a un parcours intellectuel. Vous avez parlé de l'école des mines, il y a l'école pratique des hautes études, et oui. Il s'intéresse aussi à l'écologie, déjà à cette époque, c'était pas tellement dans l'air du temps.
Je ne sais pas si on disait trop écologie, si vous voulez, à l'époque, mais peut-être que c'est son expérience latino-américaine qui lui montrait que, effectivement, la question de l'environnement était centrale. Je pense qu'on parlait peut-être plus de l'environnement ou de la terre en général, si vous voulez, que du terme écologie à l'époque. Oui. Hein. Le terme écologie, il me semble aussi, apparaît le plus avec René Dumont en 75, si vous voulez, autre chose. Mais effectivement, à l'époque, rappelez-vous, il y avait des amis de la terre.
Oui.
Vous voyez, donc je pense que c'était plutôt ça, mais en tout cas, ça revient au même. C'est une question sur les mots un peu bête de ma part. Mais...
Et quelles sont ces actions en Amérique latine? Parce que vraiment, ça a été une fascination. Je crois même que pendant un moment, il avait en tête de s'installer au Chili. L'Argentine, le Pérou, le Chili, quelles sont ces actions sur ce continent?
Je vous ai dit, il est resté en France, enfin, en dehors de sa coopération, il est resté en France, mais il a soutenu toujours les résistances et les luttes de ces deux pays.
Ce qu'on va retrouver quand il sera à la tête des éditions de La Découverte, où il va soutenir un certain nombre de publications qui portent sur l'Amérique latine.
Oui, bien sûr.
Et puis alors, il va rencontrer la journaliste Marie-Dominique Robin, qui dénonce... qui dénonce le rôle de l'armée française dans la formation...
Notamment.
Alors, expliquez-nous un peu.
En fait, si vous voulez, elle explique dans un ouvrage qui est toujours disponible, d'ailleurs, en poche, à La Découverte, qui s'appelle... je ne sais plus exactement, mais les escadrons de la mort, enfin. C'est comme quoi, si vous voulez, pendant la dictature argentine, l'armée française aurait participé à la formation de ces fameux escadrons de la mort.
Oui.
À la formation des militaires, si vous voulez. Enfin.
Et donc, à la manière d'arrêter les personnes, de la torture, est-ce qu'on peut...
J'imagine, oui.
Bon.
J'imagine.
Donc là, ça fait partie de son action militante de traduire et d'apporter un soutien à la publication d'un livre. Et puis, il y a un autre pays qui va beaucoup l'intéresser, c'est l'Algérie.
Plus tard. Ça arrive beaucoup plus tard, si vous voulez. Il s'intéressait à l'Algérie comme à d'autres pays. Et il a eu l'occasion, on a eu l'occasion, on était ensemble à l'époque à la direction de La Découverte, de publier Aït Ahmed, qui était le dirigeant des forces françaises socialistes, c'est-à-dire l'organisation d'opposition kabyle en Algérie. Aït Ahmed étant par ailleurs vivant en Suisse, réfugié, puisqu'il n'avait pas le droit de rentrer. Bon. Et donc effectivement, il a découvert à ce moment-là, il a pas mal travaillé sur cette question de la question kabyle, et surtout il était révolté par l'annulation des élections législatives de 92, je crois, et effectivement au nom du fait que c'était normalement le FIS, le Front Islamique de Salut, qui avait gardé les élections, et les militaires qui étaient au pouvoir ont annulé, si vous voulez, n'ont pas reconnu cette élection, et il y a eu une période extrêmement difficile qui sont appelées les années noires, une dizaine d'années, pendant la guerre d'Algérie, où il y a eu, si vous voulez, beaucoup de morts, et dont un certain nombre de gens suspectent que ce ne soit pas uniquement les islamistes, le Front Islamique de Salut, qui en soient responsables, mais aussi les militaires au pouvoir en Algérie.
C'est un peu la période du qui-tu-qui.
Après, si vous voulez.
Oui, tout à fait. Venons-en...
Jusqu'à la fin de sa vie, là, il participait à une organisation qui s'appelle Algeria Watch, qui est un site que vous pouvez consulter, qui est un site d'opposition à l'Algérie, c'est très direct.
Alors venons-en à La Découverte. Alors il rencontre François Maspero, et il dirigeait déjà une collection de livres aux éditions Maspero.
Oui, qui s'appelait la collection Cédétime, du nom de l'organisation que j'évoquais tout à l'heure.
D'accord. Et il avait déjà, c'est François Maspero qui l'a appelé à cette responsabilité, ou comment ça se passait pour diriger une collection de livres chez Maspero?
Il y avait beaucoup de directeurs de collection chez Maspero à l'époque, et il y avait beaucoup de collections d'ailleurs. Mais je pense que dans le collectif du CDT, mais notamment dans les principaux animateurs, si vous voulez, il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient des auteurs de Maspero. Et donc effectivement, c'était le fait d'insister particulièrement aux côtés d'autres collections, soit plus savantes, soit des sécrétiques en France ou autre chose, de publier un certain nombre de livres sur qu'on appelait à l'époque le tiers-monde et les luttes au sein de ce tiers-monde.
Et avait-il en tête de prendre la direction des éditions Maspero?
Non, il était par ailleurs ingénieur économiste, et il travaillait notamment pour un cabinet d'études économiques, même plutôt international, qui s'appelle ACT-ACT. Et donc, il n'avait pas que conscience. Il se dit, je crois que c'est vrai, mais je n'ai jamais bien compris, que très jeune, il avait eu l'idée d'être éditeur. Bon. Mais il ne m'a jamais tellement plus dit que ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'est à un moment donné, si on est à la fin des années 70, au début des années 80, François Maspero, qui a connu des années glorieuses, difficile, mais aussi des années glorieuses, et les éditions elles-mêmes avec 68 et les suites de 68, en tout cas les 4-5 premières années qui suivent, connaît des difficultés économiques importantes, si vous voulez, et donc la maison connaît une crise financière qui est un peu importante, et il en a un peu assez, François Maspero. Donc à un moment donné, il dit je n'abandonne pas si on m'aide et si François m'aide. Et comme ça, François est venu.
Et donc, il a été appelé par François Maspero.
Il a été appelé par François Maspero. Et puis, du coup, François Maspero est venu avec son copain Bruno Parmentier, dont je parlais tout à l'heure, pour faire un directoire à trois, si vous voulez, pour cette maison qui s'appelait encore Maspero. Et au bout d'un temps, Maspero en a un peu assez. Je pense que, difficile à dire, mais je pense que l'idée d'une direction à trois était peut-être pas forcément évidente pour eux. Lui qui avait fondé cette maison 20 ans plus tôt, c'était pas très simple, et donc il décide de partir. Mais il demande pour partir. Alors la presse dit il a donné ses actions à François, ce qui est exact, mais d'abord c'était pas toutes les actions de Maspero, il y en avait d'autres, et en plus, très franchement, à l'époque, la maison était au bord du précipice financier. Donc il n'y a pas eu, parce qu'il y a eu des articles qui sont parus là, qui sont un peu tendancieux sur cette question, mon sens, et qui disent Maspero, François a gagné de l'argent, etc. Mais c'est pas le cas avec ça, je veux dire, j'en témoigne, d'autant plus qu'après j'étais moi-même actionnaire, donc si vous voulez, j'ai pu voir quand même les choses de l'intérieur. Donc il est parti, mais il a exigé de récupérer son nom.
Oui, oui. Et pourquoi? Parce qu'il n'avait pas confiance. Pourquoi?
Non, mais parce que si vous voulez, c'est compliqué. Quand votre nom, la maison d'édition est éponyme, c'est compliqué, si vous voulez. J'étais très ami, je suis toujours très ami avec les éditions de minuit. Les éditions de minuit, elles ne s'appellent pas les éditions d'Adon, ou les éditions autres, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Donc, quand elles s'appellent les éditions de minuit, qui est un nom plus générique, si je peux me permettre. Et donc, je pense que pour lui, si vous voulez, c'était un peu ça. Et donc, le titre qui a été choisi, ce n'est pas un truc de hasard. C'est la dernière collection qu'avait créée François Maspero, qui était une collection en poche de livres de voyage, où on a aussi bien Christophe Colomb, Stendhal, ou autre chose, je ne sais pas si vous le connaissez,
Marco Polo. C'était des petits bouquins de poche?
C'était des petits bouquins de poche,
ouais, absolument. Oui, tout à fait.
Très intéressant. Et c'est que la dernière collection qu'il a créée, chronologiquement, donc c'est le nom qu'a pris la maison ensuite, alors avec un épisode pendant un an, en 83, où la maison s'est appelée La Découverte / Maspero, et ensuite La Découverte.
Oui, d'accord. Alors, et puis, il a, en prenant la direction, il a aussi ouvert à la logique éditoriale sur d'autres pistes, parce qu'avant, après 68, on était dans une logique marxiste, et puis au bout d'un moment, on pouvait pas tout expliqué par Marx et consorts. Il a été au-delà, il a ouvert largement le fonds Maspero.
Il est ouvert largement de son fait, mais aussi du fait de l'époque qui avait bougé quand même.
Oui.
Moi, j'ai 3 ans de moins que François, donc on est à peu près voisins, mais bon, légère différence d'âge. Je veux dire, à l'époque, certes, on était baigné dans le marxisme et autre chose, mais on était aussi, si vous voulez, avec des formations finalement pluridisciplinaires d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui me concerne, je suis économiste, mais j'ai fait par ailleurs de la sociologie, de l'urbanisme, des sciences de l'éducation et des études de haute comptabilité, si vous voulez. Bon,
ouais.
Ça veut dire que donc on était ouvert à beaucoup de choses. On allait assister à des séminaires anormales. Normal Sup, où on allait au Collège de France, je veux dire, ou à d'autres, on était ouvert à plein de choses. Et tous ces courants d'idées, si vous voulez, se sont ouverts au-delà du marxisme, eux-mêmes ont pris son essor avec une production éditoriale.
Mmh.
Et donc la maison était un point, un pôle d'accueil pour ces nouveaux courants de pensée critique.
Et puis vous avez lancé des collections importantes, la collection Repères, vous avez lancé l'État du Monde.
L'idée, si vous voulez, de Repères et l'État du Monde, c'est le géopoliticien Yves Lacoste qui a eu cette idée.
Mmh.
D'ailleurs, le titre ne reprend ni plus ni moins que State of Union, c'est-à-dire le discours du président américain, si vous voulez,
oui,
chaque année. Et donc, c'était l'idée pour les deux collections. Et c'était d'avoir accès à un public jeune, un public d'étudiants et de gens plutôt cultivés. Enfin, de niveau de culture générale assez élevé.
Mm-hmm.
Et donc, l'État du Monde et les déclinaisons n'ont pas à vous parler de filiales. Ce n'est pas des filiales, ce sont des déclinaisons.
D'accord.
L'État de la France, l'État des sciences sociales, l'État des médias, l'État du Maghreb, les santé et travail qui était l'État de la santé et ainsi de suite, l'État du tiers-monde. Étaient des livres, si vous voulez, destinés à un public plus large que quand vous aviez des bouquins de Vernon ou Vidal-Naquet, des auteurs remarquables. Mais pour les livres sur la Rome antique et la Grèce ancienne, qui n'étaient pas d'un niveau de diffusion extrêmement important.
Mmh.
Alors que là, il y avait un niveau de diffusion pour un public plus jeune et autre, et pour Repères, qui était une sorte de que sais-je,
oui,
mais que sais-je bien adapté, si vous voulez, à l'université, qui s'est ouvert aussi à l'honnête homme, comme on dit, si vous voulez, qui est une sorte de collection de pages, 128 pages, qui fait un point sur une question.
Et puis, il a aussi ouvert la porte aux journalistes. Je pense, par exemple, à Tête de Turc, qui a été un grand succès.
Alors,
éditorial.
Vous avez tout à fait raison. En fait, on a décidé, si vous voulez, tous les deux, d'ouvrir à ce qu'on appelait le journalisme d'investigation, qui à l'époque était plutôt du fait de Fayard, qui avait un journaliste comme Pierre Péan, si vous voulez, qui était pour ce genre de choses, ou Le Seuil. Et nous, on a décidé aussi de faire du journalisme d'investigation avec des journalistes qui étaient à Libé, Libération, ou qui étaient, si vous voulez, ailleurs ou autre. Il y a eu effectivement l'Empire Moon, il y a eu Kakouk, il y a eu des livres de Guinel, si vous voulez, notamment,
oui,
sur l'armée et autres.
Sur l'armée, oui.
Et puis, effectivement, il y a eu cette traduction d'un livre de chez Kippenauer en Allemagne, de Tête de Turc. Tête de Turc, qui s'appelait en allemand Ganz unten, ce qui veut dire tout en bas. Et qu'on a débaptisé, ça ne nous plaisait pas, et qu'on a eu l'idée de l'appeler Tête de Turc, qui est une expression tout à fait parlante, si vous voulez, en France. À tel point, d'ailleurs, on a découvert après que c'était en Italie, parce que l'éditeur italien, quand il a voulu traduire, a voulu prendre le titre aux Têtes de Turc, mais on en avait, du coup, la propriété intellectuelle, donc il nous a demandé l'autorisation, et donc ça fait Testa di Turco. Pardon pour l'anecdote.
Non, mais c'est très, très, très bien, parce que ça a été vraiment un grand succès. Je l'ai encore dans ma bibliothèque.
c'est un grand succès, c'est un livre. On dit 500 000, moi il me semble que c'était plutôt 700 000, et autant en poche et autant, ou presque, en édition Françoisir.
D'accord.
Donc ça a été un énorme succès, et en plus on a bénéficié, ou ça a bénéficié, c'est dans les deux sens, c'était la naissance de SOS Racisme.
Ah oui. Alors,
donc,
dans son...
comme, la,
Dans son livre « La double nature du livre », il assume de nombreux risques éditoriaux. Il a pris des risques éditoriaux et puis il a été dans le monde de l'édition. Il ne s'est pas contenté d'être un éditeur. C'est déjà pas mal, remarquez. C'est déjà pas mal. Alors, de travail.
Je vous réponds, si vous voulez. Les risques éditoriaux, ça existait aussi avant. Ça existe toujours. Je pense que vous connaissez peut-être cette... phrase traduite en langage du XXe siècle de Denis Diderot, qui explique que l'édition est une économie de péréquation. Mmh. Il n'a surtout pas utilisé le terme de péréquation. Mais il se trouve que Diderot avait fait une pige, comme on dit aujourd'hui, pour le syndicat des libraires de l'époque. Au XVIIIe siècle, libraire, ça désignait aussi bien ce que nous appelons aujourd'hui imprimeur, éditeur et libraire. Mmh. Et donc, il lui avait fait une pige à la fois pour parler de la censure sous l'Ancien Régime, mais en même temps, où Diderot explique que, pour beaucoup d'éditeurs, 7 livres sur 10 qui publient paient de ce que nous appelons les éditeurs, 7 livres sur 10 de ce qui publie perdent de l'argent, 2 équilibrent, et il y en a un qui permet de rentabiliser l'ensemble. C'est ce qu'on appelle, nous les économistes aujourd'hui, la péréquation. Mmh. Et donc, effectivement... Ça existe aussi beaucoup, si vous voulez, chez l'édition, en tout cas chez l'édition de qualité, pas chez l'édition qui fait que du mainstream, c'est-à-dire des best-sellers. Mm-hmm. Mais si vous voulez, ça existe aussi ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a décidé tous les deux, là, si vous voulez, cette fois-ci, de dire c'est très bien d'être une maison d'édition militante, mais d'abord le cercle militant était devenu beaucoup plus rare que n'était ce qu'il n'était 10 ans auparavant. C'est un secret pour personne. Certains ont parlé de l'effondrement des cathédrales idéologiques, et souffler. Donc on a pu un peu comprendre ça. Et donc, l'idée, c'était de dire, d'une part, on ouvre des nouveaux champs, donc ça a donné aussi une collection de sciences, comme Sciences et Société, où il y a eu des gens comme Bruno Latour, comme ça, ou Isabelle Stenger, si vous voulez, qui sont parus à l'intérieur de cela, donc qui sont aussi des éditions à risque. Et donc, en même temps, si vous voulez, ce qu'on s'est dit, c'est que le livre est une industrie culturelle, comme a démontré l'école de Francfort, et toute industrie culturelle est une industrie de prototype, une industrie d'offre. Et que donc, pour qu'il y ait une industrie d'offre, encore faut-il qu'il y ait un commerce de l'offre. Et ce commerce de l'offre, ce sont les librairies d'assortiment de qualité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des librairies qui s'intéressent uniquement à la demande, c'est-à-dire aux livres qui sont, si vous voulez, sur les listes des meilleures ventes et autre chose, mais des libraires qui exercent un rôle de proposer eux-mêmes une sélection au sein de la production des éditeurs, notamment en littérature générale. J'entends ici par littérature générale, j'exclus plus exactement, le scolaire, les sciences, technique, médecine et droit. Et tout le reste, effectivement, on appelle ça littérature générale. Et donc, effectivement, ces librairies sont indispensables, environ d'un millier, si vous voulez, aujourd'hui en France. Et grâce notamment au prix unique du livre, on a probablement ramené au nombre d'habitants le réseau de ce type de librairie le plus important au monde, ce qui est une bonne nouvelle, même si elles sont fragiles en tant que telles. Et c'est pour ça que notamment, avec Gallimard, Minuit et Le Seuil, nous avons créé l'Association pour le développement de la librairie de création, qui existe encore.
Oui.
Donc François a toujours été trésorier pendant 35 ans, puisque ça a été créé en 88. Antoine Gallimard est l'actuel président, Jérôme Lindon l'avait été, et dont je suis l'actuel vice-président. Mmh. Alors, par ailleurs, outre la librairie, il a travaillé sur le photocopiage, qui a donné cette loi de 95-3, qui a été faite, si vous voulez, du temps où Toubon était ministre de la Culture. Moi-même, j'étais à l'époque au ministère de la Culture, donc je me suis occupé, si vous voulez, de cette loi, avec ce slogan, le photocopiage tue le livre, que vous connaissez peut-être.
Oui, bien sûr.
Certains ouvrages. Il s'est intéressé beaucoup au numérique aussi.
Oui.
Et au numérique, à son évolution. Et donc, il est l'un des fondateurs de Kern Info, qui est une plateforme de revues numériques, mais aussi de livres.
Qui existe encore.
Chose très intéressante. Comment ?
Qui existe encore.
Ah oui, qui existe qui est très savante et qui diffuse des livres numérique sur la planète entière. Hein.
Et dans son livre, il revient sur Cairn Info, il donne des conseils pour construire une maison d'édition avec une politique d'auteur aussi.
Oui, mais c'est exactement ce que je vous dis. On a de toute façon une maison d'édition, c'est un engagement d'une part, et c'est une politique d'auteur d'autre part. Mais cette politique n'exclut pas d'avoir aussi une vue sur des publics qui ne soient pas que des publics ultra spécialisés.
Oui, et le programme Relire, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est ?
Alors le programme Relire, qui existe toujours d'ailleurs, c'était un programme, il n'était pas tout seul à faire, interprofessionnel, qui consiste, ont été numérisés une centaine de livres du XXe siècle, qui ont été sélectionnés, et qui sont proposés en numérique à un prix défiant toute concurrence. Voilà.
D'accord. Et qu'est-ce qu'un éditeur pour François Gèze ?
Ben, un éditeur, c'est d'abord c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui a une politique d'auteur, tout ce que vous venez de dire, mais c'est quelqu'un qui a question, qui a aussi conscience qu'il n'est pas dans une bulle, qu'il est ailleurs d'un secteur qui s'appelle une industrie culturelle, qui a une vraie responsabilité sociale et sociétale. Et que donc, ce qui explique que l'éditeur, au-delà de son travail et de sa passion de travailler avec les auteurs, c'est aussi quelqu'un qui s'engage sur les débats de l'interprofession et sur pour faire en sorte, si vous voulez, que dans l'économie qui est quand même régulée pour le livre au travers du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle et du prix unique du livre, par exemple, eh ben, il y ait des dispositions juridiques nationales, internationales ou européennes qui ne soient pas, si vous voulez, au fait des évolutions de politique, technique ou technologique, excusez-moi, ou autre, qui aille dans le bon sens pour l'avenir de l'édition, que cet avenir se fasse sous forme papier ou sous forme numérique, qui sont actuellement deux formes qui coexistent tout à fait bien.
Oui, tout à fait. Oui. Et alors, à l'occasion de la récente crise sanitaire, bon, il semblerait que le secteur des libraires indépendants s'en soit mieux sorti. C'est une illusion ou pas ?
En fait, oui. Alors, ces librairies d'assortiment de qualité, si vous voulez, ont connu le choc du Covid. Mais ensuite, si vous voulez, post-premier Covid, ont connu, si vous voulez, une embellie assez importante, liée à, d'une part, probablement des gens qui se sont dit, ça sert à quoi d'aller sur Amazon ou sur d'autres sites de vente de livres via Internet, de livres papier, si vous voulez, via Internet. Et donc une sorte de culpabilité par rapport à ces grands opérateurs, et l'idée de revenir près de chez soi. D'une part, si vous voulez, je pense qu'il y a eu ça. Il y a eu le fait aussi que c'était reconnu comme commerce essentiel. Donc effectivement, ça a pu ouvrir après les deuxièmes confinements et autre chose. Et donc pendant 2 ans, si vous voulez, ça a connu une embellie certaine. Aujourd'hui, on est toujours, en 2023, on est toujours à peu près au niveau de 2019. C'est un petit peu au-dessus. 2019, que je prends comme année de référence, parce que c'est l'année pré-Covid.
Oui. Et donc, quelles sont les perspectives là, qui se dessinent, selon vous ? Au niveau gouvernemental, il y a un projet, il y a un soutien en direction du livre, pas particulièrement ?
Il y a le ministère de la Culture, si vous voulez, qui est vigilant sur le droit d'auteur, vigilant... Et pas qu'au niveau français, hein, on est en Europe, donc comme vous le savez, il peut toujours y avoir des directives européennes, il y en a d'ailleurs, il y en a une aussi, si vous voulez, dans la question des fouilles de textes, data mining, ça s'appelle en anglais, c'est-à-dire que qui renvoie à l'intelligence artificielle, hein, d'ailleurs.
Oui,
on peut fouiller dans les textes pour piquer gratuitement des informations. Et donc, effectivement, le ministère est là-dessus. Il y a par ailleurs des dispositifs d'aide qui existe du côté du Centre National du Livre, du CNL, d'aide à traduction ou d'aide à la publication ou des bourses d'auteurs. Voilà.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange, avoir parlé de François Gèze, de son rôle dans l'édition et puis de son livre. Ça a dû faire quelque chose de voir un livre sortir à titre posthume comme ça et 40 ans de vie éditoriale que vous avez partagé.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on a été 8 ans ensemble à la découverte. Et donc, je vous raconte pas à l'époque, c'était de 85 à 93 à peu près. C'était sportif, c'était au moment effectivement de Valrap que vous citiez, qui nous a permis quelques années plus lumineuses en termes financiers, si vous voulez, en tant que tel, et de lancer ces nouvelles pistes dont on parlait tout à l'heure. Et puis ensuite, moi j'ai changé de différentes fonctions, mais je suis resté dans le secteur public comme privé. Et donc on a continué jusqu'à ces derniers jours. J'étais à côté de lui au moment de son décès le 28 août, que vous rappeliez, à Sarzeau.
Oui.
Et donc en fait, si vous voulez, on continue à se voir très régulièrement à dîner d'ailleurs, parce qu'on parlait de choses plus personnelles, pas trop quand même, parce qu'il n'était pas très, pas trop sur ce genre de choses, moi un peu plus, mais pas non plus beaucoup, on en parlait quand même. Et surtout on parlait, si vous voulez, des enjeux de l'interprofession, des idées, comment avancer, c'est-à-dire jamais lâcher à un moment donné, toujours être présent et toujours essayer d'anticiper.
Ouais, c'est vraiment ce qui ressort comme message de son livre là. Bah, écoutez, merci, et nous allons écouter le groupe Quilapayún, Vinciremos, le chant de la campagne électorale de Salvador Allende, président socialiste mort les armes à la main contre le fascisme. Merci en tout cas.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Je rappelle donc le titre du livre de François Gèze, La double nature du livre. En fait, la nature, un livre qui porte des valeurs évidemment culturelles, intellectuelles, mais aussi une valeur marchande. Et c'est tout l'équilibre qui doit exister. Et Jean Guibouin l'a très bien expliqué. Et comment faire vivre une maison d'édition en ayant cette politique d'auteur, en ayant des idées, en ayant une approche militante, mais en étant rigoureux sur le plan de la gestion. Depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Alors, par exemple, le livre de François Gèze et a été publié aux Belles Lettres, hein, cette excellente maison d'édition dont nous reparlerons prochainement. Il y a d'autres ouvrages qui viennent de sortir qui sont tout à fait intéressants. Mais nous mentionnons donc rapidement les titres des ouvrages, mais vous retrouvez leurs références comme à l'accoutumée, sur le blog du groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Et tous ces livres que nous mentionnons, vous pouvez les commander auprès de Publico, la célèbre librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et puis, vous pouvez retrouver certains commentaires sur notre page Facebook, Au fil des pages, et sur la chronique, j'en ai parlé en début d'émission, sur la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. J'espère que nous allons pouvoir avoir Dominique qui devrait nous appeler prochainement, parce qu'après, nous aurons d'autres points à aborder. En tout état de cause, troisième temps de l'émission, c'est ce qu'on pourrait appeler varia, c'est-à-dire une forme de plaisir, de découvrir, comme chez les bouquinistes, des livres originaux, intéressants, en furetant comme ça dans les caisses. Eh bien, au titre des caisses, on peut trouver un livre que j'ai d'ailleurs commenté dans Des idées et des luttes et qui porte sur l'histoire d'un immeuble dans un quartier populaire. Et c'est une passionnante leçon d'histoire populaire que ce livre, Voisin de passage, une micro-histoire des migrations de Fabrice Langrenier, publié à La Découverte, et ce, tant sur le fond que sur la méthode. Mais je reviendrai sur la présentation de ce livre. Dominique a mis l'électricité et elle a donc le téléphone. Allô Dominique ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors ça y est, tu as retrouvé ton téléphone, t'as tout, t'as ton ordinateur, c'est parfait. Alors,
bon, il s'est planté quand même, mais...
Bon. Alors, tu nous parles là de Milena Agus, je ne connaissais pas, une saison douce aux éditions Liana Lévy. De quoi s'agit-il ?
Alors, traduit par Marianne Faurobert, il ne faut jamais oublier les traducteurs. Mmh. Alors, d'abord, quelques mots sur cette écrivaine que j'adore. Elle est née en 1959 à Gênes d'une famille sarde. Elle a écrit un roman très connu, Mal de pierre, qui l'a révélé. Toujours, elle écrit sur le sud de l'Italie. Un film a été réalisé par Nicole Garcia sous le même titre. Et donc cette fois-ci, elle raconte l'arrivée d'envahisseurs dans un petit village de Sardaigne.
D'envahisseurs.
Oui. Alors, les envahisseurs, ce sont des migrants qui arrivent un beau jour dans un village très pauvre de Sardaigne, un petit peu comme balancé comme des ballots de paille. Ce village a perdu le statut de ville et ce n'est plus qu'un hameau rattaché à un autre village. Les enfants des familles sont tous partis pour trouver du travail ailleurs. Et l'ancien maire s'est même suicidé parce que il pensait qu'il n'était plus à la hauteur. Un peu d'ailleurs, il avait le spleen comme les maires de nos petits villages.
Oui, on a vu des statistiques là, oui.
Oui, alors les envahisseurs sont des subsahariens qui ne veulent pas rester d'ailleurs en Sardaigne, mais rejoindre des contrées plus riches d'Europe et de Grande-Bretagne. Milena Agus n'a pas peur d'employer les mots. Elle dit, ce sont des envahisseurs, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des blancs hybrides.
Dis donc, c'est un peu raciste hein, comme truc, non ?
Non, 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 elle a l'habitude d'employer toujours les mots, les mots crus. Hein. Mais non, non, je peux t'assurer qu'elle n'est absolument pas raciste. Alors, elle fait aussi référence, le mot d'envahisseur en Sardaigne, ça fait référence au passé, oui. Quand les Sardes se réfugiaient dans les tours de pierre, là, ce qu'on appelle les
nourages.
Oui, pour échapper au massacre. Ces anciennes tours de pierre, d'ailleurs un peu mystérieuses, on ne sait pas exactement d'où elles viennent. L'auteur fait aussi référence à Homère avec ses livres sur les rances d'Ulysse après la guerre de Troie. Les envahisseurs sont accompagnés d'humanitaires qui sont soutenus aussi par différents mouvements évangélistes. Bon, donc tout ça, ça forme un...
Donc ils sont pas bien acceptés ?
Non, alors ils sont moyennement acceptés. Donc après un moment de surprise, ce sont les femmes du village hein, qui vont les aider, mais pas leurs maris. Alors les maris, ce sont des agriculteurs en difficulté. Ils sont plus méfiants, plus racistes. Hein. Et ils considèrent que ils comprennent pas pourquoi ils viennent dans leur village qui est pauvre. Et puis donc ils critiquent les humanitaires. Les maris disent nous on fait un vrai travail, hein, pas comme les humanitaires. Donc le village va se diviser sur l'accueil de ces migrants. avec des descriptions savoureuses de villageois. Alors, il y a les pipelettes, celles qui colportent des fausses rumeurs. Il y a une dévote, il y a celle qui cherche à marier sa fille avec un migrant, parce que donc, parmi les migrants, il y a un ingénieur et un professeur. Donc, elle dit que ce sont des bonnes professions. Il y a le curé, et oui, on est en Italie. Hein. Mmh. Et puis, quelques humanitaires aussi folkloriques. Alors, certains migrants demeurent indifférents à ce hameau, et même hostiles, parce que, bon, ils n'avaient pas envisagé qu'il y ait des coins d'Europe aussi pauvres. Ils refusent, il y en a qui refusent d'apprendre la langue. Seuls quelques-uns, environ 6 sur 40, vont s'intégrer et deviendront protagonistes de cette histoire.
Mmh. Alors, comment vont-ils s'impliquer ?
Alors, ils vont s'installer dans des maisons en ruine et les rénover. Mmh. D'ailleurs, ils s'installent dans une maison qui sera la maison commune qui s'appelait déjà la ruine. Et donc, ils vont la rénover, ils vont nettoyer les sols, ils vont carreler, ils vont refaire du ciment. Ils vont partager les repas avec les femmes du village. Ils vont cultiver les potagers, s'occuper des bêtes en déshérence. Et donc, ils vont même jusqu'à stimuler la sexualité de ces dames. Bon, il y en a un qui est beau comme Omar Sharif. Et puis donc, les dames se plaignent du vieillissement de leur mari. Or, là, ce sont plutôt des jeunes. Mm-hmm. Donc, elles sont très contentes. Et puis, ils vont s'occuper des personnes âgées, surtout les Africains, puisque en Afrique, on respecte énormément les personnes âgées.
Alors, on va apprendre par petites touches leur histoire ?
Oui, alors, au détour d'une phrase, elle en fait pas... c'est pas central, hein, mais on apprend qu'une jeune femme s'est fait violer sur le chemin et qu'elle va donner naissance à un enfant métis. Et malgré ça, malgré tous les coups qu'elle a subis, elle reste gaie et optimiste. Un autre noir qui s'occupe du jardin a été séparé de ses enfants. Il dit qu'il va les chercher en Europe dès que possible. Mais bon, la narratrice est très sceptique. Elle dit qu'elle aura du mal à les retrouver. Bon, peut-être d'ailleurs qu'ils sont morts en mer.
Et alors, qu'est-ce que vont apporter ces envahisseurs finalement ?
Alors, donc, je vous lis un extrait. Ouais. L'arrivée des envahisseurs nous avait changé. Nous avions besoin d'horizons plus vastes et les collines alentour, malgré leurs courbes douces, nous firent soudain l'effet de murailles. Donc, les villageois vont se mettre à l'anglais, parce que beaucoup communiqueront en anglais avec les migrants. Ils vont discuter philosophie, mythologie, histoire. Ils vont relire Homère et ils vont aussi apprendre la fragilité de la vie, les limites en matière d'amour et comment l'art de sortir de son terrier. Ils vont comprendre que certaines populations ne peuvent pas rester chez eux. À un moment, il y en a une qui dit « Mais le fait est que les humains sont sans doute ainsi faits, toujours en mouvement. » Et ils vont se sentir utiles. Je termine par cette phrase. « Nous avions au moins une bonne raison de vivre. Nous rendre utiles à ceux qui avaient eu encore moins de chance que nous. Mais que pouvions-nous faire ? Nous avons un dicton, nous les Sardes. Commence par sauver tes brebis, tu penseras au reste plus tard. Bon, » Et puis donc, ils vont regretter, bien sûr, les migrants vont partir en Europe, et donc ils vont les regretter.
Donc, voilà. Un livre qui donne à réfléchir sur les migrants, leur rôle, comment on les accueille, et puis ensuite...
Oui. La difficulté d'accueil, donc c'est pas un livre angélique, hein.
Oui, tout à fait. Alors, tu nous rappelles le titre et l'éditeur.
C'est donc Une saison douce, Milena Agus, Liana Levy, en 2022, traduit par Marianne Forobert. Et je voudrais aussi signaler trois livres que sur le même thème de l'arrivée des migrants que j'ai beaucoup aimé. C'est Laurent Godet, Eldorado. Un très bon roman policier de Norek, Entre deux mondes sur la jungle de Calais et justement les liens avec la population de Calais.
Oui.
Et puis un livre sélectionné pour le Goncourt mais qui n'a pas eu de prix, Vincent Delecroix, Naufrage.
Donc alors il doit être bon puisqu'il n'a pas eu le prix, c'est, c'est intéressant. D'accord.
Il est très dur, c'est l'histoire c'est un fait divers réel, l'histoire de 27 migrants qui sont morts dans la Manche. Alors que la personne qui les avait au téléphone n'a pas su les diriger, n'a pas su les sauver. Elle est mise en accusation d'ailleurs actuellement.
Bon, eh ben écoute, voilà quelques livres pour nous donner à réfléchir, comme quoi les romans donnent à réfléchir. Oui. Prochain livre, dans 15 jours.
Benjamin Franceschetti, La manufacture des livres, c'est sur une aventure en 1914 avec plein d'anarchistes, donc ça devrait te plaire.
Bon, ah bah écoute, on va voir ça, la manufacture des livres. Eh bah, écoute, merci Dominique.
Oui, allez, bonsoir.
À bientôt, au revoir. Alors, je voudrais reprendre ce que je disais sur justement les migrants. Hein, dans le livre Voisins de passage, une micro-histoire des migrations de Fabrice Langrenier, nous sommes entre 1880 et 1930 dans un immeuble d'habitation dans le quartier de la Plaine Saint-Denis, à Saint-Denis. Et l'auteur nous invite à parcourir la vie de ces lieux depuis l'arrivée des sœurs Versailles en 1860, qui loue une petite maison, et puis après ça on va construire sur l'espace agricole qui est attenant à la maison, pour accueillir des migrants, des migrantes d'origine provinciale, étrangère, coloniale, issue de la plupart des couches populaires. Alors Nancy Green, historienne, spécialiste des migrations, souligne dans sa préface que les multiples facettes sociales et culturelles de la vie populaire d'autrefois ressortent de ce livre avec des couleurs vives, logement, travail, loisirs, hygiène, transport, alimentation, presque aucune dimension de l'existence n'est oubliée, pas même les sons et les odeurs qui parsemaient la géographie sensible des occupants de l'immeuble. Et au-delà de l'analyse des migrations, Fabrice Langrenier nous conduit au cœur de la ville, de l'industrie, des relations sociales sous la Troisième République. Et ce qu'il décrit, ben, c'est tout simplement la vie de la banlieue. Et ça fait penser au livre d'Émile Zola, Le Ventre de Paris, et à toute cette littérature populaire, d'Eugène Dabi, par exemple, l'auteur d'Hôtel du Nord, ou encore de La Zone Verte, ou encore de Faubourg de Paris. Donc vraiment, je conseille ce livre, qui est un excellent livre de micro-histoire. On s'intéresse quand même à un immeuble. Bon, mais bien évidemment, vous verrez qu'on va au-delà, et notamment les relations entre les individus, comment les choses peuvent s'organiser. Et je conclurai avec les propos de Fabrice Langrenier. L'histoire de ce livre, racontée à travers le trou de la serrure d'une minuscule fraction du territoire, fera sans doute réfléchir. À l'heure où les migrations et la diversité culturelle suscitent des réponses toutes faites, dogmatiques ou épidermiques, les recherches qui promeuvent la nuance et le discernement sont peut-être plus nécessaires que jamais. On peut faire référence à l'actualité et à certains votes. Fabrice Langrenier, Voisin de passage, une micro-histoire des migrations, édition de la Découverte 2023. Et je terminerai par un livre que j'ai beaucoup aimé, les autres aussi, mais dans un tout autre style. Un livre qui s'appelle « Carnet vénitien » de Liliana Magrini, sorti aux éditions Serge Safran, collection de poches tout à fait intéressante. En 1956, une vénitienne, Liliana Magrini, écrit en français et publie sous l'égide d'Albert Camus, à Paris, Carnet vénitien, dont Georges Safran assure la réédition bienvenue. Femme entre deux cultures, la française et la vénitienne, elle nous conduit dans les calis, sur les fondamentes et le long des canaux de cette ville fascinante. Et souvent, les livres accompagnent leurs lecteurs dans leur découverte urbaine. Là, dans certains cas, vous êtes à Paris, ailleurs en France, vous tournez les pages, comme Praga Magica, comme Bruges la Morte, comme le piéton de Paris, vous déambulez là, dans Venezia, avec le meilleur guide. Cette ville existe-t-elle encore? Déjà, Liliana Magrini s'interrogeait. Est-elle un rêve, une illusion? Alors aujourd'hui, envahie en toute saison par les touristes, je vous en cause même pas. Ce livre, vraiment, si vous avez à aller visiter Venise, mais prenez-le, c'est un guide. C'est un guide pour ressentir. Nous sommes dans les années 50, les touristes sont partis, la pluie prend possession de la ville, dans les rues, le long des canaux. Alors, le passage de la valse des parapluies est un moment d'une grande poésie, presque une chorégraphie. Dans les quartiers populaires, nous croisons les petits métiers, le rémouleur, le balayeur des rues, un vieux menuisier à la jambe de bois, les bruits humains, les échanges en vénitien, le Veneto, animent la ville. Chaque page est un jeu d'eau, de lumière, de couleurs, même le gris est beau. Et souvent, ça je le dis, le gris est beau. Écoutons ce... Tenez, bah, par exemple, écoutons ce passage consacré à une façade. Ciselée de dentelures, ornée de plaques précieuses, parsemée de pierres blanches, ici un éclat, ailleurs plusieurs barres de longueur et de contours variés, comme si l'on avait regretté de tailler ces beaux blocs, jamais ces façades si gracieusement libres n'ont la préciosité gratuite d'une tapisserie. C'est que si la surface est leur seule dimension, cette surface est pourtant la paroi d'une salle de théâtre où chacun aurait ouvert à sa guise sa propre loge. C'est très beau, je trouve vraiment que cette, la découverte de cette ville, on a envie de lire toutes les pages, ben, ce sera à vous de découvrir ce livre. Hein. Plus loin, ben, les îles à Murano, ses pêcheurs, la Giunchetta, celle d'Annunzio et son jardin des fleurs. Quelle sorcière cette ville, s'exclame Liliana Magrini. Et elle-même, ne serait-elle pas un peu, pour présenter sa ville, un peu comme une sorcière avec tant de charme et de délicatesse? C'est assez étonnant. Bon, l'ouvrage ne comporte pas de chapitres. Il se coule de phrases en notes, comme un carnet au fil des pages, comme une promenade sans fin, sans but, hormis celui de goûter la magie de Venezia. Écoutez, tenez, un autre passage. On peut bien parler d'eau morte au sujet de certains canaux étroits, tout enserrés entre de hauts murs. Mais sur ce plomb stagnant, soudain éclatent si joyeuses les couleurs d'un fait de maison frappé par le soleil et dont chaque détail, se reflétant dans l'eau, devient plus vif, comme émaillé par ce sombre miroir. Pas un canal qui naît ces jours-ci, ne fût-ce que dans un raie, ce cri de couleur solaire. Vous êtes un peu fatigué? Allez, rentrons dans un café ou une église intimiste. Vous croisez le Tintoret, le Titien, ou au moins leur peinture. Quelle délicate présentation! Et puis, les chats, les pigeons, vous observe pendant les quatre saisons de Venise. Tiens, au détour d'une rue, la maison de Goldoni et des Campi. Mais quittez la place Saint-Marc, sauf à l'occasion des grandes marées, la Coalta. Un dernier mot, toujours de Liliana Magrini. Sur les différentes saisons, c'est encore Venise qui connaît la halte et la détente, l'abandon et la flânerie. Elle ne prise pas l'effort, mais elle sait par héritage déjouer l'ennui ou faire d'un tendre ennui l'accompagnement de jours qui risquent quelques lumières trop fragiles pour qu'une virile révolte ne l'efface. Elle connaît les recours d'un renoncement non résigné. Il en est dont le charme peut accompagner une vie. Un très beau texte, vous goûterez, surtout si vous allez à Venise très bientôt, Liliana Magrini, Carnet Vénitien, Serge Safran Éditeur, 2023. Eh bien, chers amis, c'en est terminé, si je puis dire, pour ce numéro d'Au fil des pages. Je vous invite à découvrir Le Monde Libertaire tout de même de novembre 2023. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Dans 15 jours, le mercredi 13 décembre 2023, nous recevrons Alexandre Antolin, pour son livre « Une censure éditoriale, ravage » de Violette Leduc. intéressant. On connaît Violette Le Duc pour La Bâtarde. Ravage, vous verrez, que s'est-il passé avec Ravage ? Et Alexandre Antolin sera là pour nous l'expliquer. D'ici là, bonne lecture. Et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager.
La cigarette sans cravate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui prend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe, comme un paquet vers les étoiles, tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
De la lumière. maisons sont passées, sont passées les lumières qui nous guidaient. Devenue statue de pierre, qu'avons-nous fait? Les instants comme des clous de fer. Rien que le bruit de la mer. Seule réponse. Souviens-toi, c'était hier. Mais aujourd'hui. Le lion secoue sa crinière. Peur de la nuit.
Femme libre.
Femme qui se libère.
Femme qui prenne la parole.
Femme qui témoigne.
Femme qui crée.
Femme qui se révolte.
Femme qui lutte.
C'est Femme libre sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femme libre sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, 40e émission de cette année 2023, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous sommes avec Sylvie à la technique. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et avec Marie-Jo qui est là une fois par mois, et c'est aujourd'hui.
C'est ça, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. On peut nous suivre sur le blog émission-femmes-libres.blogspot.com et donc on peut réécouter les émissions, avoir le programme, etc. Et on peut nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Et tout ça grâce à Sylvie. Donc, 4 temps dans l'émission, en fait 3 plutôt, mais on va essayer d'en faire 4. La Tribune Libre avec Barbie, le film à voir, point d'interrogation. Les Défricheuses, féminisme, caméra au point et archives en bandoulière. C'est une exposition du 28 septembre, enfin qui a démarré le 28 septembre et qui se poursuit jusqu'au 20 décembre. On vous expliquera où et quand, comment, tout, avec Nicole Fernandez-Ferrer et Natacha Petrechine Bachelet. Et puis, le troisième temps, ça sera Isabelle Thieuleu, excusez-moi, à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est avocate, spécialiste des violences faites aux femmes. Et on aura un petit temps, c'est le quatrième, avec quelques informations et des rendez-vous. Mais on commence par la Tribune Libre, Barbie, le film à voir.